drogue pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Merci d'être avec nous sur Radio Campus 106.6. Aujourd'hui, nous sommes 5 pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Laurent.
Bonjour.
De Pierre-Yves.
Salut tout le monde.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Voilà, une grande équipe bien musclée aujourd'hui puisqu'on va vous parler de jeux vidéo avec des remasters et également des nouvelles opus qu'on n'attendait pas forcément. Et je vous propose de parler un peu d'agenda. Alors cette fois-ci, ça sera pas forcément un agenda d'événements comme on peut le faire habituellement sur toutes les activités ludiques de la région. Mais ici, on va vous parler un peu de jeux vidéo avec ce qu'on appelle des bundles.
Alors dans un bundle, en fait, vous trouvez plusieurs jeux qui sont réunis et quand vous achetez, c'est l'ensemble des jeux que vous achetez.
C'est un lot, quoi.
C'est un panier garni de jeux vidéo.
Ou pochette surprise. Non, pas surprise, parce que tu sais ce
qu'il
y a dedans.
Non, c'est ce qu'il y a dedans. Bien que parfois, tu peux ne pas savoir ce qu'il y a dedans, mais bon.
C'est comme quand tu vas au magasin de bière, puis que tu as les fameux paniers avec les différentes bières belges.
Mais il y a des sites internet qui font ça. Tu achètes un paquet surprise, c'est un abonnement, en fait. Chaque mois, tu vas recevoir un petit carton avec des objets inédits dedans. Là, c'est un bundle, c'est un peu différent, puisque vous voyez la liste des jeux qui sont associés à ce bundle. Alors, avant de parler de ces nouveaux bundles, est-ce que vous, il vous est déjà arrivé d'acheter des bundles? Et de quoi ?
Moi, j'ai acheté des bundles de livres d'informatique ou c'était des livres, des e-books sur le monde du jeu vidéo, sur le développement, etc. On peut trouver des fois des bundles de comics, mais bon, moi, je les prends pas parce que c'est des comics. Pareil en version digitale, je préfère avoir les vrais en papier, mais il y a plein de choses différentes en plus.
Ça ne s'étend pas qu'aux jeux vidéo.
Je t'avouerai que les bundles étant généralement sur un thème précis, c'est pour ça qu'après t'as un regroupement de jeux dans un lot. Par exemple sur Steam, moi je prenais les bundles sur les jeux de stratégie ou les jeux de rôle qui prenaient en compte les sagas. Par exemple, un jeu qui avait 4 ou 5 jeux, par exemple du 1 au 5, ils se les mettaient en bundle et je les prenais à ce moment-là pour les essayer à ce moment-là.
Des fois, tu as des bundles d'éditeurs. Par exemple, tu peux avoir, je sais pas, au hasard, Blizzard ou Electronic Arts qui sort des bundles et tu as des vieux jeux, tu as des jeux plus récents, etc. Et c'est des jeux qui ont, des fois, sont assez récents, enfin, qui ont peut-être 1 ou 2 ans, des fois des plus anciens, et tu as vraiment des bonnes affaires, quoi. Des fois, tu peux avoir vraiment beaucoup de jeux pour pas très cher.
Alors, à ne pas confondre avec les Game Pass, qui sont très à la mode également en ce moment. Les Game Pass, c'est une sorte de location. Donc, le jeu ne vous appartient pas une fois que vous arrêtez votre abonnement. Alors que le bundle, une fois que vous avez payé votre bundle, le jeu est à vous et vous pouvez y jouer.
Tu peux l'acheter en théorie offline.
Oui.
Et en sachant, le jeu, tu peux l'ouvrir parce que quand t'achètes un bundle avec une dizaine de jeux, en fait, tu as ce qu'on appelle des clés à entrer dans Steam, par exemple. Mais cette clé, tu peux très bien l'offrir à quelqu'un d'autre. Par exemple, si tu as déjà dans les 10 jeux qu'il y a dans un bundle, par exemple, il y en a déjà 2 ou 3 que tu as déjà, et ben, ces jeux-là, tu peux les offrir à quelqu'un d'autre.
Alors ici, les deux bundles qu'on a repérés, Pierre-Yves, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je veux dire, j'ai déjà acheté des bundles sous Steam, et effectivement, il y a des fois, j'avais déjà certains jeux dans le bundle, et ce qui est bien, c'est que dans ce cas-là, en fait, Steam en tenait compte, et il te baissait le prix du bundle, vu que tu avais déjà certains jeux à l'intérieur du lot.
Ça se fait pas sur toutes les plateformes, ça, hein.
Si tu as déjà Diablo, et que tu achètes un bundle où il y a Diablo 1, ça va pas te faire Diablo 2. Ça va te faire 2 Diablo, hein, attention.
C'est comme ça que t'as un Mafia 5 à la fin, quoi. Mais je pense qu'on parle vite fait de Mafia, mais je pense qu'eux avaient leur bundle également. On en reparlera tout à l'heure.
On fera un classement un jour des jeux qu'on a en plus d'exemplaires chez nous.
Alors, qui a acheté un bundle avec un jeu qui l'intéressait vraiment dedans et s'est jamais servi de ce à juste à côté? Moi, ça m'est arrivé énormément de fois.
C'est souvent le cas, oui.
Oui, bah oui.
Après, quand les prix sont très attractifs, tu te retrouves avec 15 jeux pour le prix d'un et tu joues à un ou deux parce que t'as pas le temps pour les autres et ça suffit amplement.
J'ai même déjà acheté un bundle de 2 jeux où je me dis waouh, quelle offre, quelle aubaine, et le deuxième n'a jamais été installé, quoi.
Du coup, tu aurais payé moins cher le premier.
Non, justement, c'est ça qui est con, c'est que les deux jeux sont moins chers des fois que le jeu seul. Donc,
c'est comme quand tu vas, dans des supermarchés ou dans des magasins de vidéos, t'avais des bundles de DVD, t'avais deux DVD pour le prix d'un, sauf que sur les deux films, il y en a un qui est à peu près potable, et l'autre qui est, c'est un truc complètement pourri, quoi. Genre, t'as deux films de Jean-Claude Van Damme. Bon, attends, je vais chercher un bon film de Jean-Claude Van Damme. Il faut que je trouve un autre exemple.
Ouh là là, tu veux qu'on fasse une petite pause de musicale et...
JCVD.
Voilà, tu peux avoir un film avec Brad Pitt, etc. Un film connu, etc., plus récent. Puis t'as un de ses premiers films où genre il fait qu'une apparition derrière une porte à un moment, c'est tout, quoi. Et le...
Alors, quels sont les bundles qu'on a repérés dernièrement? Le premier, c'est un bundle de Sierra. Quelqu'un peut me donner quelques jeux célèbres de cet éditeur?
Oui, je pensais, moi, du coup, les jeux peut-être Space Quest, notamment, dans l'espace. Ça, c'était bien, bien marrant. Gabriel Knight aussi. Donc, des vieux jeux qui existaient déjà sur les PC et Amiga, je pense aussi, de mémoire. Et les Quest for Glory.
Après, t'as aussi tous les César ou les Kaiser, comment tu le prononces, du 1 oui. Au je sais plus combien maintenant. Les premiers jeux où tu devais agrémenter une situation, où tu devais développer une cité, la protéger, la détruire pour la reconstruire au mieux avec les événements que tu avais débloqués. Enfin, c'était très stratégique pour l'époque.
Et je pense un jeu auquel on a tout joué, je pense du moins, c'est Arcanum.
Effectivement, un des meilleurs RPG, hein, je pense qu'il sera dans la liste à tout le monde celui-là.
Ah oui.
Oui, oui, oui.
C'est celui qui va vendre le bundle et qui va...
Ah mais c'est exactement celui qui m'avait fait acheter le bundle sur Steam à l'époque pour avoir le premier et pouvoir y jouer. Et justement, tous les autres Arcanum du bundle sont pas encore installés.
Sauf qu'Arcanum, par exemple, tu peux le trouver tout seul, à part sur Steam, il doit pas être cher. Tu dois peut-être l'avoir 2-3 euros, quoi, tu vois, un jeu comme ça. Donc ça vaut pas le coup le bundle juste pour ce jeu-là. Mais... C'est le jeu qui m'a attiré l'œil sur le bundle, quoi, mais effectivement. Mm-hmm.
Je suis en train de vérifier du coup à combien est Arcanum. Il est effectivement à 4 euros achetez une clé. Et si vous voulez la version PC vraiment physique, alors là, il va falloir débourser 42 euros pour avoir cet objet qui devient un peu un objet de collection.
Je l'avais acheté à la boîte avec le manuel, etc., le kit complet. Je l'avais eu pour 1,50€ en boutique, tu vois, chez un vendeur de jeux vidéo.
Alors, cette offre se termine très bientôt.
Elle se termine mardi, le 19, voilà. Donc, c'est sur le site humblebundle.com. Le site est en français depuis quelques années. La particularité de Humble Bundle, c'est que quand tu achètes un bundle comme ça, alors le bundle est divisé en général en trois packs. T'as un pack avec 5-6 jeux de base pour un certain prix. Là, par exemple, c'est 7 euros. À partir de 7 euros, tu donnes l'argent que tu veux. Et à partir de 9 euros, t'as le deuxième pack de jeux, puis etc. À partir d'autres sommes, t'as encore deux jeux. La particularité, c'est que quand tu payes, effectivement, tu me donnes la somme que tu veux. Il y a toujours un minimum à fixer. Et quand tu choisis, par exemple, là, pour les 6 jeux, tu peux très bien dire, je donne 10 euros. Sur les 10 euros, tu choisis la répartition. Tu dis, par exemple, sur les 10 euros, il y a 5 euros qui vont aller à l'éditeur, en sachant que le site Humble prend sa part, un pourcentage, je crois. Et je donne 5 euros à une œuvre, parce que les bundles sont toujours associés à une œuvre, une association, une œuvre caritative, une organisation non gouvernementale. Donc, c'est aussi un moyen de faire un geste.
Alors, c'est pas le seul bundle qui a attiré notre attention. Et là, je pense que ça va plaire à Reynald. Il y a un bundle également chez Asmodee.
Ouais, Asmodee Play with Friends pour être plus précis, exactement. Avec pas mal de jeux de société en portage virtuel. On a par exemple Splendor, Small World, Carcassonne, Patchwork, Eagle Assassin, Potion Explosion, Love Letter. Donc des vieux jeux, des jeux assez récents. Il y a de quoi contenter tout.
Des jeux très récents même, effectivement.
Alors, vous avez parlé, oui, du bundle, sur The Walking Dead. Mais, non. Je suis un peu déçu, quoi.
Oui, parce que quand tu es sur le site Humble Bundle, tu peux aller explorer. Il y a toujours une dizaine de bundles en cours, puisque c'est toujours une durée déterminée. Et, des fois, tu trouves des trucs intéressants. Il y a toujours des bouquins, des comics, des vidéos, peut-être des fois. C'est pas mal.
Ah, effectivement, je connaissais pas ce Humble, bundle.com. Bon, ça peut être intéressant. Après, il faut être, je pense, plus ou moins un gros joueur pour avoir une playlist de jeux comme ça. On parlait d'Asmodee.
Ah, attends, enfin, tu dis ça, mais par exemple, je sais pas, Dominique, sur Steam, tu as combien de jeux dans ta bibliothèque? Pareil sur GOG. Bien.
Alors,
et à combien as-tu réellement joué?
Des jeux où tu as payé
une heure.
Ça, tous les utilisateurs de Steam, c'est le troll. Voilà, tu comptes la proportion de jeux auxquels tu as joué. Déjà, si tu les as installés, c'est bien.
Mais voilà. Bon. Parce que Steam t'indique combien d'heures tu as joué au jeu. Ce qui permet d'avoir une petite indication sur à quel point tu...
La rentabilité. Ouais.
Et combien d'heures de ta vie tu as perdu à jouer à Skyrim ou...
Ça va marquer Pierre-Yves, ça.
Ça se compte en heures, ça?
Parce que
quand il joue,
non? Semaine.
Semaine?
Ah non, Pierre-Yves, ça se compte en mois, là.
Ah, en mois, oui. Mais on parle pas de Hearthstone, hein, mais bon.
En sachant que dans les bundles, ce qui arrive souvent, surtout dans les bundles de jeux vidéo, c'est que tu as le jeu lui-même et tu as aussi des fois la bande originale, justement, on parlait de musique, la soundtrack, en plus. Donc tu peux très bien acheter le jeu pour 2-3 euros et avoir la musique en plus. C'est moins cher qu'un album de musique pratiquement pour certaines musiques que tu aimes bien. Et tu as les fichiers en général en MP3 à part.
Et des fois, tu peux même acheter la bande originale en pensant que c'est le jeu.
Voilà, oui.
Ça sent la mauvaise
expérience.
Bon. Ça m'est pas arrivé, mais effectivement, j'en ai entendu parler. Tu reçois des commentaires tout foufou. J'ai le jeu pour quelques euros. C'est dans tel lien. Et toi, tu cliques dessus, tu vois OST juste devant le mot du jeu en plus. Et tu dis un qui vient de se faire pigeonner ou qui s'est trompé. Quoi.
Ce qui arrive également assez souvent, et parce que les gens jouent avec ça, bien sûr, c'est lorsque tu penses acheter une version PC et en fait t'achètes une version PlayStation qui date d'il y a un ou deux ans. Et ça, c'est très courant également.
Mais ça a dû coûter plus cher que la version PC, la version PlayStation, non?
Non, ça t'as dépend. Des disques durs qui sont assez gros pour contenir des jeux maintenant.
Prenons l'exemple de Red Dead Redemption.
Ou Final Fantasy VII, il y en a plein qui ont dû acheter l'ancien, tu sais.
Ces jeux sont sortis il y a déjà plusieurs années, Final Fantasy pareil, ils ont une réadaptation sur PC beaucoup plus tard, ce qui fait que le jeu PlayStation avait déjà été retourné par tout le monde, donc le prix était forcément moins important que la version PC qui sort à prix fort. Dans les 60 euros, je sais pas quoi, enfin les prix exorbitants, 70 même, hein, je pense Red Dead Redemption.
Ah, au début, oui, c'est bien possible.
Donc voilà, et dans ces jeux, hein, vu qu'on parlait cette fois-ci d'un bundle de jeux de plateau, mais là on parle des versions en ligne, hein, enfin, on a noté plusieurs jeux, alors Love Letter qui est assez... connu maintenant, hein, qui a eu son succès, ouais. Carcassonne et ses nombreuses extensions. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il y a toutes les extensions dans ce bundle ou, prenons l'exemple de Carcassonne, après il va falloir débourser si on veut plus
Alors tu peux acheter le jeu de base et une fois que tu as le jeu, acheter les extensions à part dans le jeu, mais là déjà si tu achètes alors le jeu dans le pack de base, donc tu as Carcassonne, version de base, peut-être une extension, non, même pas. Si tu as
le Winter and Gingerbread.
C'est ça, quand tu passes dans le... Si tu donnes un peu plus, quoi. Quand tu achètes la deux... Quand tu dépenses 9 euros et plus, tu as deux extensions. Et quand tu dépenses 11 euros et plus, tu as encore trois nouvelles extensions, en sachant que Carcassonne, en général, le jeu de base suffit largement, quoi.
Enfin, les extensions portent quand même un plus. C'est quand même intéressant d'avoir quelques extensions en plus.
Pour des joueurs comme nous qui jouons pas mal, Carcassonne maintenant fait partie des vieux jeux que tu ressors pour présenter à des nouveaux joueurs. Donc avoir quelques extensions te permet de renouveler le jeu et te redonner envie d'y jouer. Mais le jeu de base, sinon, effectivement, suffit amplement, quoi.
Ouais, il y a les...
gratuitement il y a pas longtemps, mais sur un autre bundle. Je l'avais eu gratuitement, je pense. Ouais, c'est ça.
Oui, ouais, c'était sur le launcher d'Epic Games avec les Aventures et du Rail. Les deux jeux étaient gratuits.
Donc là, celui-là se termine bientôt également, dans 5 jours, si je ne me trompe.
Ça termine vendredi, 4 jours. C'est ça. Jeudi prochain, oui, c'est ça. Donc le 19, c'est ça, le 19 mai.
Donc on a parlé de ces fameux jeux Love Letter, ouais. Carcassonne. Il y a également Small World, qui, lui, a cartonné pour les joueurs de stratégie. Et ce jeu Small World avait un concept assez innovant où vous pouviez combiner deux factions que vous pouviez recruter durant le jeu.
En fait, c'est une faction et un pouvoir.
C'est un petit jeu de conquête, hein, qui se joue de 2 à 5 joueurs. Là, c'est pareil, on doit pouvoir jouer à plus parce qu'il y a tellement d'extensions de ce jeu. C'est un jeu qui est sorti il y a 20 ans maintenant à peu près. Ça m'a surpris d'ailleurs quand j'ai vu le chiffre. Et oui, effectivement, il y a une particularité. C'était inspiré d'un jeu précédent du même auteur. Qui s'appelle
Vinci.
Et le principe est amusant, c'est ta civilisation, à un moment, il fallait qu'elle meure, qu'elle disparaisse, quoi. Et tu devais changer elle devait évoluer. Tu devais changer de civilisation. Tu savais qu'à un moment, tu devais provoquer le déclin de ta civilisation pour passer à une suivante, etc. Et donc, tout le sel du jeu était dans la gestion, justement. À quel moment tu décidais de sacrifier ton peuple pour en prendre un nouveau, quoi. Et puis, le petit mélange amusant, effectivement. Tu peux avoir des gobelins chasseurs ou bien des trolls pêcheurs ou des elfes volants. Enfin, on tirait au hasard et ça donnait toujours des combinaisons assez amusantes.
En sachant, en fonction du peuple que tu prends, tu peux avoir uniquement 6 pions, donc 6 personnages pour le peuple, ou bien tu peux en avoir, admettons, les gobelins, tu en as genre 10 ou 12, moins puissants certes, mais par contre qui te permettent de te répandre beaucoup plus vite sur le plateau.
Ce qui est différent de stratégie, c'est que malgré la diversité de peuples et de pouvoirs, comme ça, de caractéristiques, c'était à peu près équilibré. Tu disais, oh, ce mélange-là, ça doit être très puissant, ou celui-là doit être très puissant, ou celui-là très faible. Mais non, tu pouvais très bien gagner avec un mélange qui te semblait faible, et c'était vraiment pas coup de vent.
Parce qu'il fallait toujours adapter à la situation de ton jeu, là où tu te trouvais, le choix de la race et du pouvoir. Il n'y avait aucun pouvoir et aucune race qui était plus forte que les autres, c'était juste de trouver la bonne race avec le bon pouvoir qui s'adaptait au bon moment de ton jeu. Et ça, c'était très, très compliqué à voir.
Ouais. Et puis quand un joueur commence à prendre vraiment les devants, bah, généralement les autres joueurs se liguent contre lui, histoire de freiner son avance, et puis donc c'est toujours un peu un ratio entre ou comment je me situe par rapport aux autres, qui j'aide. Donc bon, du coup il y a aussi un peu de parlotte entre les joueurs pour faire des alliances temporaires, pour porter donc quelques coups bien placé aux joueurs qui seraient en tête.
Dans le jeu de base, il y avait 14 peuples différents et 20 pouvoirs. Donc, toutes les combinaisons, tu vois, t'avais de quoi jouer avant de faire le tour. Et le graphisme était très sympa, les plateaux, les pions, tout le matériel était vraiment bien. Et c'est un jeu qui a une vingtaine d'années maintenant, je crois. C'est assez impressionnant. Il a eu un succès énorme, beaucoup d'extensions et beaucoup de prix. Il y a quelques années, une édition spéciale qui est sortie dans une énorme boîte en bois avec des pions, une version de luxe, mais alors super de luxe, qui avait été sur Kickstarter. Waouh, cette version-là était très chère, mais quand tu l'as, t'es tranquille pour un moment.
On parle d'extensions, il y a encore aujourd'hui des extensions de Small World, et notamment liées aux jeux vidéo.
Dont on va parler, c'est pas vraiment une extension, c'est plus une licence, je sais pas comment appeler ça, c'est pas un reboot, etc. C'est une version spéciale.
Ah, c'est
version
un peu comme le Monopoly Walking Dead. Ici, on aurait une version Small World. Alors, qui va cracher le morceau?
Small World of Warcraft. Oh. Si c'était sorti au moment du 1er avril, je me suis dit, ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, effectivement, j'ai vu ça, je crois que j'ai vu ça ce matin. C'était annoncé par Days of Wonder, l'éditeur du jeu. C'est assez sympa. Avec une petite vidéo, avec la musique du jeu vidéo World of Warcraft. Et tu te dis, pourquoi pas, effectivement. Et quand tu vois le matériel, oui, ils ont vraiment adapté. Ils ont refait une nouvelle version avec des plateaux. Au lieu d'avoir un plateau unique, apparemment, t'as différentes petites villes qui représentent les différents mondes, enfin, villes, civilisations de Warcraft, on va dire, de World of Warcraft. Les 16 peuples, les pouvoirs, il y a des héros, il y a des monstres, on peut tuer des murlocs, apparemment. Est-ce qu'il y aura des quêtes? Je ne sais pas, mais ils ont adapté, ils ont pas juste plaqué le graphisme, on va dire, l'univers de World of Warcraft à Small World. Ils ont fait une petite adaptation, ils ont dû sans doute modifier un petit peu les règles et tout. Et, ouais, j'ai bien envie de tester ça, quoi.
Surtout que là, ils ont fait un mélange entre le Small World de base plus l'extension de Small World qui était underground où on pouvait aller parce que de base le Small World c'est on s'affronte sur la terre en fait avec les différents types de terrains, et le Small World underground a ramené des cartes de souterrains où on pouvait aller joyeusement se foutre sur la tronche là-dedans aussi. Donc là, le Small World World of Warcraft prend le Small World de base plus le Small World underground pour vraiment bien mettre en place tout le système et l'univers de World of Warcraft.
Attention, c'est pas Small World World of Warcraft, c'est Small World of Warcraft.
Exactement, faut faire attention. L'auteur, Philippe Kayers, qui est l'auteur original, qui était l'auteur de l'ancien jeu Vinci, qui a toujours développé les extensions de Small World, a rajouté aussi une nouvelle mécanique qui permet de voyager justement entre des lieux éloignés. Alors avant, t'avais un seul continent.
Qui va jouer les pandas alors?
Bah, personne.
S'il y a un joueur qui prend les pandas, tous les autres joueurs vont lui taper dessus.
C'est pas sympa, les gars.
Alors, on a cité l'auteur Philippe Kayertz, et il y a aussi l'illustrateur hein, qui, sur ce coup-là, fait un boulot vraiment sympathique. C'est Miguel Coimbra, Donc voilà.
Il y a un illustrateur super, super recherché maintenant dans le monde du jeu de plateau.
On parle de World of Warcraft. Est-ce qu'il y a encore des gens d'entre vous qui ont retesté World of Warcraft dernièrement?
Le classique, je ne joue pas. Hein.
Non. J'ai toujours pas joué et j'y jouerai pas.
Est-ce que le classique tourne encore ou...
Oh, il tourne bien encore. Il y a beaucoup de mouvements là-dessus, ouais.
Surtout avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur le jeu en ligne en général, notamment World of Warcraft. Quoi.
Un sujet qui date, hein, ça, je pense que qui date de plusieurs années,
2005.
Mais qui bizarrement se colle un peu à l'actualité d'aujourd'hui. C'était un incident sur World of Warcraft qui s'est tourné en sorte de pandémie dans le jeu, avec les joueurs, mais aussi les NPC, les personnes non joueurs. Et c'est là qu'il y a vraiment un impact extrêmement important. C'est l'incident du sang vicié.
Pas du sang.
On parle pas contaminé, ouais. On allait dire la même chose. Ouais.
Ça, oui, c'est ça. Oui, c'est en 2005, donc je crois qu'on venait... On avait joué ensemble à World of Warcraft à ce moment-là, mais je crois qu'on venait juste d'arrêter. Donc, septembre 2005, ce qui s'est passé, c'est que dans World of Warcraft, il y a des donjons, c'est connu pour ça, et dans ces donjons, il y a des boss. Et dans un des donjons, le donjon qui s'appelle Tul'Gurub, il y a un des boss qui avait une mécanique un petit peu... originale, façon de parler. Il mettait une espèce de poison sur les joueurs qui fait que un joueur contaminait les joueurs qui étaient trop proches de lui. Un petit peu comme ce qui se passe en ce moment dans la pandémie. On est obligé de respecter des distances. Le fait que les joueurs qui étaient à plusieurs, on pouvait être jusqu'à 40, je crois, dans certains donjons, à attaquer le boss, il fallait qu'ils gardent une certaine distance vis-à-vis des autres pour pas les contaminer. Et sinon, ils perdaient leur vie progressivement. Et il y avait un petit bug, ce qui fait qu'il y a certaines classes du jeu qui avaient le démoniste notamment et le chasseur qui avaient des animaux, des familiers. Et les familiers pouvaient être contaminés aussi par ce poison. Ce qui se passait, c'est que quand le joueur mourait ou quittait le donjon et que son familier avait été contaminé, Il revenait en ville, lui il était soigné, ou il est peut-être mort, il sort de l'hôpital, etc., il est soigné, et la première fois que tu réinvoquais ton familier, ton animal de compagnie ou ton démon, eh ben, il y avait un petit bug qui faisait que l'animal ou le démon avait encore le poison sur lui. Ce qui fait que le poison qui n'était pas censé, qui était une mécanique qui était censée être réservée à l'intérieur du donjon et ne pas en sortir, tu te promenais en ville, t'allais faire tes courses dans les capitales, peu importe, et ton familier... contaminer tous les gens que tu croisais, ce qui fait que tu as des gens qui ont commencé à mourir, à être contaminés, à mourir dans les villes, dans les capitales. Ce qui est amusant, c'est que les PNJ, les vendeurs des magasins, etc., les gardes, attrapaient aussi la maladie, mais ils n'en mouraient pas eux. Par contre, ils continuaient à contaminer tout le monde. Ce qui fait que tu avais des villes qui étaient complètement ravagées, tu avais des cadavres de joueurs, bon, les joueurs réapparaissaient au bout d'un moment ailleurs, quoi. Et les gens ne pouvaient plus rentrer. Au bout d'un moment, les gens ne pouvaient plus rentrer les capitales, parce que dès que tu franchissais la ligne, tu as les gardes ou le moins de PNJ que tu te contaminais et tu mourais au bout d'un moment. Surtout quand tu étais un perso de très bas niveau, quoi. Et
surtout, si tu étais...
Surtout que c'était de bas niveau. Et les développeurs ont pas vu ça tout de suite. C'est arrivé sur quelques serveurs et c'est arrivé de plus en plus. C'est vraiment comme ce qui se passe. Tout le monde savait pas d'où ça venait, cette maladie. Et pas moyen de corriger le bug, en tout cas au début. Et les joueurs ont commencé à s'organiser entre eux. Fait que les joueurs qui avaient des pouvoirs de soins aidaient à garder les autres en vie. Il y a des joueurs qui ont commencé à organiser tout le monde. Genre, pour entrer dans une ville, il fallait essayer de garder les distances. Les joueurs qui étaient débutants, qui avaient un petit peu peur, enfin, qui comprenaient pas ce que les joueurs un peu plus expérimentés, les guidaient. Je disais, les emmener dans des endroits sûrs, etc. Et les joueurs commençaient à s'organiser une vie hors de la ville. Enfin, c'est vraiment comme ce qui se passe en ce moment dans la vraie vie, quoi. Les gens s'organisaient, mettaient des nouvelles procédures en place. Et on a fini par... Enfin, les gens ont compris d'où venait le truc, mais les développeurs n'ont pas réussi à corriger le bug. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû carrément mettre à jour les serveurs et le remettre à jour, ce qu'on appelle faire un rollback, et remettre à jour une ancienne version pour éradiquer ce fameux virus, cette épidémie qui s'était répandue dans World of Warcraft.
En fait, ce qui se passait quand tu étais au boss de fin comme ça, que tu te faisais donc prendre cette malédiction, cette maladie, si tu révoquais donc ton familier et que tu l'invoquais plus tard en ville, c'est là que
la maladie est encore là.
Du coup, pour bloquer ça, une fois qu'ils ont corrigé le... comme tu as dit, fait les rollbacks, ils ont tout simplement, lorsque tu vas dans cet instant qui s'appelle Tul'Gurub, eh ben, les animaux de compagnie, eux, ne peuvent plus avoir cette contamination. Voilà.
Donc, ils n'ont pas vraiment corrigé le bug, ils ont mis une espèce de vaccin de protection un petit peu bizarre.
Et toi, François, tu étais plutôt du genre à contaminer les autres joueurs.
Ah mais oui, parce que dans le lot, il y avait des joueurs qui aidaient les autres, qui les guidaient, qui les calmaient, enfin qui les rassuraient, quoi. Mais il y en a qui faisaient exprès d'aller contaminer. Et il y en a même qui, puisque dans World of Warcraft, tu as l'Alliance et la Horde, donc les deux camps ennemis, et bien sûr, dès le début, il y en a qui se sont dit, eh ben, on va aller porter la maladie chez l'ennemi, bien sûr. Et ça marchait. Ce qui fait que tout le monde était contaminé, c'était assez spécial, quoi.
Sûrement un coup des pandas, tout ça.
Et après... Après, on a inventé les pandas.
Non, les pandas sont venus beaucoup plus tard.
Alors, du coup, quand on parle des pandas, c'est là, François, où tu nous passes la musique de Chantal Goya.
Oui, mais bien sûr. Hein, je vous invite d'ailleurs à réécouter. Alors, puisque ça va être un challenge, hein, si vous voulez tester un peu votre
résistance.
Voilà, tester votre résistance à la douleur auditive. Je vous invite à réécouter la dernière émission de Heureusement en France, qui était un challenge back to back, où Pierre-Yves nous a dégoté de fabuleuses musiques, notamment du remix de Chantal Goya.
Et ouais, de Bécassine, s'il vous plaît.
Is my cousine. Voilà,
c'est vrai que pour tester ton seuil de tolérance à fracasser ton PC par la fenêtre pendant que tu écoutes le morceau, c'est excellent.
Là, on pourrait passer Pandi Panda, là. Je sens que c'est le bon moment.
Moi, ce que je vous propose, puisque là, on parle de World of Warcraft, on va parler juste après de la version remaster de Diablo 2 qui va sortir cette année. Je vous propose d'écouter ce fameux thème sur Tristram, le fameux village. Et cette musique bien prenante de Diablo 2. C'était peut-être Diablo 1 d'ailleurs.
Oui, c'est le 1, oui. Je ne sais pas comment j'ai jamais fait le 1, ça.
Bon, voilà, musique de Diablo 1. Thank you. Ça fait toujours plaisir de réécouter cette version de Tristram. Est-ce que vous avez vu cette information? Il y a plusieurs jeux qui vont être remasterisés, donc refaits complètement depuis le début. Hein. C'est, on parle pas juste de mettre à jour des textures ici. On repart depuis zéro et on refait une nouvelle version. Alors, je dis ça, j'espère fortement, hein, mais c'est ce qui s'était passé, puisque là on parle de Blizzard avec Diablo 2, c'est ce qui s'est passé avec Warcraft 3 Reforged, qui avait déchaîné les chroniques du jeu vidéo. Un des pires jeux, le plus mal noté hein, dans l'histoire du jeu vidéo, en tout cas très récemment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté le Warcraft 3 Reforged?
Nope.
Et non.
Personne ne va l'avouer, je pense.
Voilà, vous avez bien fait. Mais
à la rigueur, s'il est dans un bundle dans 10 ans.
Même.
Alors, est-ce que c'est pertinent d'avoir cette nouvelle édition de Diablo 2 alors qu'on a annoncé récemment un Diablo 4? C'est la question qu'on va peut-être se poser. Mais est-ce que, alors je pense connaître la réponse, est-ce que ça vous tenterait une version de Diablo 2 remasterisée?
Comme moi,
faut voir, je vois pas trop ce qu'ils vont faire pour l'instant.
T'avouerais que oui et non. Oui, pour m'éclater une soirée avec des potes comme je faisais avant dessus, mais une soirée quoi. Et non, parce que il y a d'autres jeux qui sont mieux quoi.
Ouais, oui, le 2 suffirait. Surtout que s'il faut payer en plus, mais bah non en fait. Parce qu'il existe des modes, enfin il y a des joueurs qui ont fait des modes pour améliorer la qualité de Diablo 2, avec des nouvelles textures, des nouveaux objets, etc. Donc je vois pas trop l'intérêt.
Alors si vous connaissez pas Diablo 2, ici on parle d'un jeu à hack and slash, où vous allez voilà parcourir des donjons et taper de la bestiole jusqu'à en avoir mal à l'index. Mais c'était très prenant à l'époque parce qu'on faisait ça notamment sur des jeux en réseau, hein, les fameuses LAN.
C'était assez addictif, ouais.
Voilà, et on avait plusieurs possibilités d'évolution du personnage qui permettaient voilà d'avoir un personnage plus ou moins unique et de récupérer des objets. C'était un peu comme jouer à la loterie. Hein. On attendait que ce fameux objet de couleur assez spécial, jaune ou violet, tombe sur le sol. Et d'ailleurs, ça a été repris après dans beaucoup de jeux vidéo, ce système de loot qui est maintenant extrêmement répandu.
Ouais, tu pouvais faire, en parlant des objets, ce qu'on appelait des sets complets de ton armure, casque, plastron, etc., de telle couleur, mais aussi de tel nom d'objet. Ce qui veut dire, si tu avais le casque du guerrier, bah, il fallait que tu trouves le plastron du guerrier, les bottes du guerrier, pour qu'une fois que tu avais tous les objets, ça te redonnait encore des bonus supplémentaires. Et comme c'était des objets qui tombaient aléatoirement quand tu combattais des boss ou des monstres bien précis, tu relançais tes parties les unes après les autres tout le temps pour les obtenir. Et c'était très long, très ennuyeux, mais
c'était
bien heureux quand tu l'avais, quoi. Ouais.
C'était tellement bien fait que, enfin, c'était bien conçu parce que il y avait juste assez enfin, l'équilibre entre ce que tu, la récompense et la satisfaction de looter des objets et la durée, la répétition, etc., était tellement bien faite qu'effectivement, tu pouvais passer des heures et des jours et surtout des nuits à jouer dessus. Et qui se rappelle de la commande qui permettait d'augmenter la difficulté? Surtout quand tu jouais tout seul. Parce que quand tu jouais à plusieurs, il y avait plus de monstres, etc.
Tu définissais le max de joueurs à 8.
Ouais, tu pouvais mettre 8 joueurs, oui.
Et il y avait une commande à taper, c'était players 8.
Ah, c'est ça.
Donc dès qu'on lançait une partie, le premier truc qu'on faisait, on tapait players 8 pour faire croire au jeu qu'on était plus nombreux. Donc il y avait des monstres plus durs, mais ils rapportaient aussi plus de
trésors. Et le premier que tu tapais, il te faisait déjà gagner un niveau direct ou c'était...
Tu n'es pas tué par le premier rat que tu rencontrais.
Ah. Après, je pense qu'on préférait jouer à Dungeon Siege pour pouvoir regarder le film en même temps avec Jason Statham.
Décidément, Pierre-Yves, tu aimes bien faire des running gags durant toutes ces émissions. Alors, d'ailleurs, si vous voulez réécouter les émissions, vous pouvez le faire sur Radio Campus, dans la catégorie podcast, également sur notre site anotherpodcast.fr pour retrouver toutes les émissions de Heureusement en France. Et Dieu sait qu'il y en a maintenant. Voilà, on a un petit stock. On parlait de Diablo 2, ce n'est pas le seul jeu qui va être remasterisé, et là je pense que c'est plus une attente auprès de certains d'entre nous, c'est la remasterisation des titres Mafia, en tout cas des deux premiers épisodes, et je pense que le Mafia 1, qui nous a plongé comme ça dans ces villes, dans les villes aux alentours des années 50, je pense.
Ah, 1930 même.
1930.
Les deux étaient à la même époque ou pas?
Non, l'autre était après.
Pour moi, le premier, c'était tu étais en pleine prohibition, donc effectivement dans les années 30.
Et je pense que c'est un jeu qui nous a extrêmement marqué, de par son gameplay, de par son histoire et par sa musique. Je vous propose tout de suite d'écouter une partie de la BO, hein, de l'OST de Mafia 1, avec les musiques de ce célèbre guitariste de jazz manouche. Je parle bien sûr de Django Reinhardt. Et lorsqu'on se baladait comme ça dans les villes de Mafia en voiture, nous avions les musiques de Django qui nous mettaient vraiment dans l'ambiance de ces années-là. Ça me fait toujours plaisir d'écouter du Django Reinhardt. Alors, est-ce que ça vous intéresse, ce nouvel opus de Mafia ?
Ah, je trouve que c'est une bonne idée parce que, enfin, c'est vrai que le premier épisode est sorti, ça fait très très longtemps. Et c'est vrai que, comme tu disais, j'avais pris un grand plaisir, même rien qu'à se balader en ville et écouter la musique. Et je pense que rien que pour ça, déjà, ça donne envie d'y rejouer.
Alors, donnez-moi quelques événements marquants qui vous êtes arrivés à Mafia. Qu'est-ce qui vous revient en tête directement ?
Il va y avoir les traumatismes de la course de voiture. Tout le monde va parler de ce moment. C'est l'épisode sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui se disent mais mon Dieu, mais cette course de voiture, c'était un choc pour tout le monde, tellement elle était dure, tellement on y a passé des jours entiers, je pense. Et bizarrement, j'ai réinstallé le jeu récemment.
Et je l'ai fini en 5 minutes.
Et j'arrive à la mission de la voiture et là je vois choisissez votre difficulté. Et je me dis bah non. Ben non, c'est pas. Du coup, le jeu n'avait plus d'intérêt. J'ai désinstallé.
Ah carrément.
Ah oui.
Moi, ce que je me souviens et qui m'a vraiment marqué, c'était lorsque vous débutiez le jeu, vous aviez les voitures de base et ensuite vous aviez des voitures un peu plus performantes. Et lorsque vous démarriez le jeu, vous aviez la voiture qui avait très peu d'accélération, il était quasiment impossible de monter le pont principal de la ville, ce qui faisait que votre voiture faisait du 2 à l'heure, limite elle faisait de la marche arrière.
Oui, mais l'intérêt de tout ça, c'est que tu ne pouvais pas te faire attraper par la police. Car oui, on pouvait se faire avoir par les excès de vitesse.
Ça, c'était vraiment. Ça a été repris par très peu de jeux. Peut-être le dernier GTA avait un contrôle de vitesse. Ah non, c'était sur le mode qu'ils ont sorti après. Qui était fait par les joueurs. lorsque vous passiez à côté d'un policier et qu'il y avait une limite de vitesse, il vous sifflait, il vous poursuivait
même,
en courant.
Même les feux rouges, c'est génial. T'imagines, oui, sur GTA, tu mets les feux rouges, il n'y avait plus personne du tout.
Mais ils ont sorti les versions, comme je te dis, de GTA un peu real life, où tu peux, où t'es censé respecter le code de la route, et ce sont des joueurs qui jouent les policiers. Donc c'est assez rigolo à faire.
Par contre, du coup, Mafia Trilogy, ça inclut les remasters du 1 et du 2, plus le 3. Parce que le 3 n'est pas, il est déjà sorti ou pas?
Ah oui.
Ah, le 3, oui. Non.
Le 3, par contre, il sera pas remasterisé. Donc, ce qui s'appelle Mafia Trilogy, c'est la compilation des 3. Okay.
J'ai peur qu'il remasterise les deux premiers avec le dernier moteur de Mafia. À voir.
En sachant que le premier jeu, donc le Mafia 1, était sorti en 2002 quand même. Donc ça ne nous rajeunit pas.
Et quand on voit les images du jeu, c'est vrai que ça...
ça a souffert. Pour l'époque, c'est quand même très sympathique.
Mais pour l'époque, t'avais les personnages. Ils avaient une certaine façon de mapper les visages sur les PNJ, enfin, même sur tous les personnages d'ailleurs. Et ils avaient fait un travail assez
très innovant. Soigné,
Lorsque les personnages fumaient leurs cigares ou cigarettes, ils avaient réussi à créer de la fumée juste en additionnant plusieurs petits ronds qui ensuite s'évaporaient. Et ça, c'est un des jeux qui a le plus travaillé ces points-là et qui ont été bien réussis.
Mais il y avait une comparaison de Mafia 1 et Mafia 2 au niveau des détails. Et il montrait qu'on a perdu énormément de petits détails entre le Mafia 1 et le Mafia 2. Par exemple, quand on tirait avec une mitraillette, il y avait les cartouches qui tombaient à terre dans Mafia 1. Et dans Mafia 2, disparition. Elle n'existait plus. Et il y a énormément de petites choses comme ça qui sont attendues, je pense, dans le remaster. C'est est-ce qu'on va perdre des détails pour juste avoir des beaux graphismes? Ce serait très dommage.
Et est-ce qu'on aura, puisque lorsque vous terminiez le jeu de Mafia, vous aviez un open world qui était assez unique à l'époque, où vous deviez réaliser des petites missions et vous pouviez vous balader en ville.
Le mode free ride.
C'était le premier GTA V de l'époque, sauf que vous étiez tout seul.
En sachant que à la fin du premier jeu, en fait, donc votre héros épousait quand même du coup une femme qu'il avait rencontrée, il avait une fille et tout ça, et puis bon.
Tu vas spoiler la fin.
Non, ça y est, c'est fini.
Oh là là, mais c'est le début du 2, après la suite, donc c'est ça s'enchaîne, c'est très bien.
Bah là, je peux plus jouer un, je suis obligé de commencer par le 2, quoi. Merci.
Non, joue un.
Après, il serait capable d'en faire un reboot à la place d'un remaster et de changer la fin.
Ah oui, pourquoi pas, écoute.
Ah non, pour une fois que j'avais trouvé une excuse pour pas jouer au premier, tu déconnes.
Non, je pense que c'est un très bon jeu. Celui-là, tu peux acheter le bundle. Alors peut-être pas jouer jusqu'à Mafia 3, qui sont malheureusement des jeux qui se sont perdus dans cette nouvelle façon de faire des jeux un peu sans goût. Dom t'en parlait en début d'émission.
C'est pas quoi.
D'autres jeux qui vont être remasterisés, c'est Tony Hawk Pro Skater. Donc il y avait déjà eu une version HD et maintenant ils vont carrément repartir de zéro pour faire une version remasterisée Tony Hawk Pro Skater 1 et le 2. Pour ma part, ça m'intéresse, mais je pense que vous, pas du tout.
Bah, quand t'as joué à la version HD, ouais.
Mais la version HD, c'était juste de nouvelles textures. Ici, ça sera forcément de meilleurs graphismes, pour ce que j'ai pu voir, puisque ça sera un nouvel moteur.
Mais c'est quoi l'intérêt de jouer au 1 quand t'as le 2 aussi remastered? Parce que c'est un peu le même principe, non, à chaque fois.
L'intérêt n'est pas pour nous, je pense, mais plus pour l'éditeur qui se fait les thunes derrière.
Il y a ça, mais il y a surtout, ce sont des niveaux différents, ce sont des skateurs différents selon les versions. Puis les gens sont attachés à ces jeux qu'ils ont sûrement exploités pendant des heures et des heures, hein, ce qui est le cas pour nous avec Mafia et Diablo 2.
Les gens qui aiment bien avoir toutes les boîtes de chaque jeu. Complétionniste.
Il y a une information qui est leakée concernant un nouveau MW2. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On parle ici de Modern Warfare, effectivement. Bon, je pense qu'on n'est pas des experts dans le domaine, mais bon, si vous êtes des fans de Call of Duty, sachez qu'une remasterisation est prévue peut-être cette année. C'est toujours en discussion.
Oula.
Mais du coup, Alors, c'est quel épisode? Alors, c'est le 3, le 5, le 12, le 15? Parce que bon, on est un peu perdu à force.
Écoute, lance un des 6, lance un des 20.
Un des 20. Puis,
Échec critique.
J'avais mis plein de news sur Fortnite, comme quoi il y avait des concerts sur Fortnite, mais je vois que ça n'intéresse personne. Alors je vous propose de passer directement à Street of Rage, puisque lui aussi se paye un nouvel opus avec le numéro 4, je pense, hein, c'est Street of Rage 4.
Oui, effectivement, le quatrième épisode s'appelle Street of Rage 4.
Surprenant.
En tout cas, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le 4 arrive un peu plus de 26 ans après le dernier en date. Les trois premiers étaient de environ 90 à 95 ou 91, 94 dans ces eaux-là. Et là, ils sortent le 4 en 2020. C'est pas mal.
Ouais. Mais le premier Streets of Rage était sur Mega Drive de mémoire.
C'est ça. Ouais. Moi, je savais pas qu'il y en avait d'autres, mais.
Ah, je confondais avec Double Dragon, moi. C'est un magnifique jeu Game Boy.
Encore plus vieux.
Ou Golden Axe,
hein. Golden Axe, pour le coup, c'est
sur, sur arcade. Sur arcade.
Ah, donc oui, Street of Rage. Et dès que t'étais en difficulté, tu levais ton poing en l'air et puis t'as les voitures de flics qui débarquaient plein de missiles.
Il y avait plein de
non, c'est pas quand t'étais dans la merde, c'est quand tu commençais le jeu et que tu testais tes boutons.
Quand il y avait personne.
Ou quand tu y rejouais depuis longtemps et que tu dis bon, allez, je donne un coup de poing et là tu vois que la voiture de flic arrive, tu fais bon, je vais reprendre les touches.
C'est quand tu posais ta manette pour boire un coup, hop, il y avait les policiers qui arrivaient.
Et tu pouvais faire des combos entre joueurs, tu pouvais te lancer des objets, enfin, tu pouvais casser tout le décor et récupérer le décor pour taper sur les ennemis qui étaient de plus en plus durs, bien sûr. En plus, intéressant derrière, il y avait tout un scénario qui était développé, c'était pas mal.
Et dans cet épisode 4, on peut interpréter combien de joueurs différents alors?
Comme le numéro l'indique.
4 personnages.
4 formidables.
Et on retrouve certains personnages du tout premier qui ont évolué, qui a été dans tous les épisodes.
Et en fait, t'as aussi de 1 à 4 personnages, mais en tant que joueur. Mais tu les as en tant que Street of Rage 4 2020. Après, tu pourras les débloquer au niveau du design du caractère pour les remettre, par exemple, je sais plus comment il s'appelle, le blond qu'on trouve dans Street of Rage 2. Dans Street of Rage 4, tu l'auras avec son graphisme de 2020, mais après, tu pourras le débloquer pour y rejouer dans Street of Rage 4 avec les graphismes de Street of Rage 2.
Donc avec des pixels plus gros, donc plus de chances de toucher l'adversaire.
Voilà, donc en fait, tu te retrouves avec près d'une vingtaine de caractères disponibles, mais qui sont un mélange des anciens caractères avec des designs différents.
Je me souviens surtout que tu pouvais choper tes alliés et les balancer sur les ennemis.
Ouais.
Ça, c'est la meilleure technique.
Bah, c'était dans Double Dragon.
Après, ce qui est bien dans ce Street of Rage 4, c'est que tu as des modes de jeu différents des autres. Les autres, c'était soit tu étais juste en local avec un ou deux joueurs, si tu avais un pote qui jouait avec toi. Là, donc, tu pourras jouer de 1 à 4 en local ou en ligne. Donc, déjà, ça s'est mis aux actualités de maintenant. Mais tu as des modes de jeu comme un qui est... pour les purs et durs, qui est le mode arcade, où tu as juste une vie pour tout faire, tous les niveaux. C'est le mode
hardcore, quoi.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a du friendly fire?
Je pense, oui.
Il y en avait avant. Donc.
Après, tu as un autre mode, qui est le simple mode boss rush, qui est tu affrontes les boss les uns après les autres. Ça t'évite de faire les niveaux, c'est une feignasse.
Bah, ça te permet peut-être une chance d'avoir la fin, de voir la fin du jeu, en fait.
Après, je sais pas si tu la vois, vu que c'est un mode de jeu et qui n'est pas le mode histoire. Je pense pas que tu verrais la fin. Tu verras peut-être une fin différente. Ouais.
Alors, pour l'instant, c'est disponible sur PS4, sur Xbox One. C'est 35€ hein, pour le jeu. Et attention, sur Nintendo Switch, le prix est de 40€. Est-ce que vous savez pourquoi?
Parce que Nintendo?
Non. Parce qu'il y a une taxe sur la cartouche. Donc il y a une taxe de cartouche
comme
de 5€.
Comme sur les
disques
durs, sur tous les moyens, sur tous les supports.
C'est ça. Donc vous avez bien sûr des éditions collector qui vont sortir avec un mini-livre illustré, un beau porte-clés Street of Rage. Bon, ça, je pense que ça...
Ça c'est la classe.
Ça s'adresse... Dom est en train déjà de regarder si le porte-clés vaut le coup.
On n'a pas acheté, pardon, nous n'avons pas parlé de la musique par contre.
Ah oui, parce que les Street of Rage a toujours été caractérisé par une musique super bien travaillée. C'est le même compositeur, Yuzo Koshiro, qui travaille depuis le début sur les, bah, qui a travaillé sur les 4 épisodes. Et ça a toujours été des musiques un peu techno, électroniques, etc. Super recherchées, bien travaillées, etc. Avec des musiques différentes pour chaque boss, pour chaque combat. Enfin, c'était toujours des musiques assez sympas. Et pour le 4, il a été assisté d'un compositeur français, un compositeur de musique qui s'appelle Olivier de Rivière, qui a travaillé sur Assassin's Creed 4, sur Plague Tale Innocent, qui est sorti l'année dernière, qui a été récompensé, sur Dying Light, sur même Might and Magic. Ça fait très longtemps, il a commencé dans les années 2000 à composer. Et il a même une musique qui va vous rappeler les souvenirs, Championship Rally. On en passera un jour des Championship Rally. C'est une musique d'Olivier de Rivière.
Attention. Du coup, on allait passer du Street of Rage. Là, tu nous mets un challenge.
Non, on va passer du Street of Rage. Obligé de passer du Street of Rage.
Attention, Championship.
Championship, un jeu de course avec des moutons.
Il a aussi fait la musique de Shenmue, ce qui est déjà un peu plus intéressant, je pense.
C'est pas le même niveau.
T'es sûr?
Mais voilà, une belle combinaison. D'ailleurs, on va s'écouter ça. On va s'écouter du Street of Rage 4, cette nouvelle BO qui est maintenant disponible. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Juste après nous, c'est l'écho des gnous, donc restez sur Radio Campus pour parler d'informatique libre. À la semaine prochaine, ciao.
Salut à tous.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.